toujours et encore heureuse de vous retrouver. L'équipe de production de Grand Témoin vous propose effectivement aujourd'hui de découvrir Odette Guéma Guiloya, une femme au parcours exceptionnel, nous en dirons plus, mais laissez-nous d'abord lui dire bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors nous essaierons de faire savoir à nos auditeurs ce que vous êtes dans la vie quotidienne, ce que vous avez fait jusqu'à ce jour. Mais c'est surtout votre position qui nous intéresse. Vous êtes présidente des femmes de petites et moyennes entreprises.
Oui, je suis présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise. C'est une association qui encadre effectivement les petites et moyennes entreprises créées et gérées par la femme.
Alors les PME sont un moyen de diminuer le chômage, de lutter contre la pauvreté et de participer aussi à l'économie nationale. Nous en parlerons dans la seconde partie de cet entretien. Parlons de vous d'abord. Vous êtes mère et vous avez trois enfants.
Oui, oui, j'ai trois garçons.
Des garçons seulement?
Oui, oui. Je n'ai que des garçons.
C'est malheureux.
Vous savez, on accepte ce que Dieu vous donne. Hein. J'aurais effectivement voulu avoir une fille, mais comme je n'ai pas pu l'avoir, bon, je ne peux pas pleurnicher.
Alors vous-même, vous êtes née à Kisantu, dans le Bas-Congo, et c'est là que vous aviez fait vos études.
Oui, je suis née à Kisantu, mais j'ai fait mes études primaires et une partie des secondaires à Bazaboma, dans le Bas-Congo, effectivement. Mais j'ai terminé finalement ici au lycée du Sacré-Cœur, qui aujourd'hui on appelle Bossangani.
Vous gardez de bons souvenirs de Bazaboma?
De très bons souvenirs de Bazaboma. C'est une école qui vraiment nous a formés, qui a pu développer toutes nos qualités. Vraiment, on nous a formés comme femmes, comme êtres humains. Très tôt, nous avons appris à avoir des responsabilités. Quand on arrivait et que même si vous aviez 9-10 ans et qu'il y avait des petites qui venaient plus jeunes que vous, vous avez la responsabilité d'une des petites là. Il fallait savoir ce que cette petite devenait depuis son réveil jusqu'au coucher.
Alors vous étiez à l'internat donc?
À l'internat, oui, à l'internat.
Alors vous avez aussi fait des études ailleurs, après l'école primaire et l'école secondaire, vous êtes allé à l'université?
Oui, oui, j'étais à l'université à Louvain. À Louvain, la vieille, comme on peut l'appeler, c'est pas
la malheureuse,
non, Louvain, la vieille.
Et là, qu'est-ce que vous aviez fait?
Là, j'ai fait les sciences économiques, je suis licenciée en sciences économiques de l'université de Louvain.
Vous avez bénéficié sûrement d'autres formations par-ci par-là?
Oui, j'ai bénéficié de beaucoup de formations, beaucoup de séminaires. Oui, oui, beaucoup de formations, beaucoup de séminaires. J'ai assisté à plusieurs conférences. Je crois que je n'ai pas à me plaindre. C'était complet. Ma vie a été complète du côté, disons, professionnel. Ça, c'est vrai.
Le grand témoin.
Grand témoin qui vous propose de découvrir aujourd'hui Odette Guéma Guiloya, présidente des femmes des petites et moyennes entreprises. Nous allons appeler ça comme ça. Nous allons mieux la retrouver chez elle. Complice Alain Hirung qui a fait une visite à sa résidence.
C'est le chien de madame?
Oui, c'est notre chien.
Il s'appelle comment?
Max. Il est très méchant, il attaque les gens, complètement.
J'espère qu'il ne va pas m'attaquer, là. C'est un chien roux.
Comme je suis avec vous, peut-être, il ne va pas vous attaquer.
On peut faire le tour de la maison?
Bien sûr.
Vous vous appelez comment, papa?
Je m'appelle Yvon.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici?
Pour que pense en fait la maman. Vous faites quoi ici, papa Yvon? Moi, je suis ici pour le miel. Ça fait longtemps qu'il a commencé à exploiter le miel. Nous avons des activités au niveau de Bas-Congo. Là où on peut comprendre le mieux.
Elle vous paye bien?
Très bien. D'ailleurs, c'est ça qui me permet de payer les loyers ainsi que le fait scolaire mes enfants.
Il commence à pleuvoir. Est-ce qu'on peut accélérer un peu?
Oui.
Nous sommes à l'arrière de la parcelle. Je vois cette plante, mais avec ce bassin, il n'y a pas d'eau ici?
Il n'y en a pas. Ça fait longtemps que l'eau ne sort plus ici.
Comme il pleut, vous allez profiter certainement pour avoir de l'eau.
Oui. Oui, c'est tout ce que je m'en ai fait de ceci. D'ailleurs, Bachir, vous nous promenez avec des bidons derrière la Bachir. Là, on voit l'eau, on prend et on réserve.
Et il arrive aussi que maman puisse de l'eau.
Bachir, s'il fait, on a profité.
Papa, ils vont ici, nous sommes où?
Nous sommes à la cuisine où la maman est en train de préparer.
Mais la maman prépare seule, elle n'a pas de bombe?
Là, il dormait pour le moment, il est au Bas-Congo.
C'est noir, là. Il n'y a pas de courant.
Il n'y a pas de courant. D'ailleurs, ça est devenu convertible.
Maintenant, maman, elle va préparer comment?
Elle va utiliser comté de réchaud.
Le réchaud à gaz, hein.
Ah, oui.
Elle prépare elle-même.
Elle va préparer elle-même.
Mais comment, selon vous, elle parvient à concilier son travail ménager et ainsi que ses activités professionnelles?
Mais elle partage le temps, le matin elle prépare et puis les après-midi elle partage pour les activités.
Nous avons laissé maman continuer son travail pendant que nous sortons de la cuisine.
Merci beaucoup d'avoir à Alain Hirung pour ce reportage. Alors, madame Odette, qu'est-ce que vous aimez préparer? On doit laisser sur la soif de la cuisine là.
Ah oui, mais je prépare tout ce que nous mangeons ici. Je peux préparer la viande, je prépare le poulet, je prépare le pondu national. C'est tout ce que nous mangeons.
Les safous?
Les safous, et bien que je ne prends pas beaucoup ça, mais sinon, de temps en temps, oui, c'est vrai.
Alors, là, vous avez cité un peu des aliments connus, mais est-ce que vous vous ouvrez aussi à d'autres aliments, par exemple d'autres régions, vous-même, vous êtes du Bas-Congo, vous ouvrez à d'autres aliments?
Oui, mais les aliments des autres régions, je crois qu'il y a le poisson aussi, c'est vrai, qui vient de l'Équateur et ainsi de suite, mais sinon, je ne sais pas s'il y a vraiment des spécificités tranchées entre les régions au niveau de la cuisine.
Nous allons quitter la cuisine. Dans notre vision, vous avez un parcours professionnel assez riche, 6 ans d'ailleurs comme PDG du Fonds de promotion de l'industrie, 1 année comme directeur de cabinet au ministère de l'Industrie, et puis administrateur d'entreprise, secrétaire d'État à l'économie. Dites-nous, le poste qui vous a beaucoup marqué, c'est lequel?
Le poste qui m'a beaucoup marqué, c'est le Fonds de promotion de l'industrie, parce qu'en fait, il a fallu diriger. Et puis, nous avons pris nos fonctions, si je peux dire, en 91, 91.
C'est à l'époque de la crise.
Oui, en avril. Et en septembre, intervenaient déjà les premiers pillages. Donc, c'était assez difficile. Il fallait donc faire opérer des adaptations. Et on a carrément mis l'entreprise dans une politique conjoncturelle qui s'adaptait aux circonstances du moment. Effectivement, après le pillage, nous avons fait un peu l'état des lieux. Nous avons vu qu'il y avait des entreprises qui avaient tout perdu.
Est-ce que vous aviez donné une contribution particulière à la relève des entreprises en ce moment-là?
Oui, bien sûr. Nous avions effectivement vu, comme je le disais, des entreprises sur le terrain qui avaient tout perdu, d'autres qui avaient sauvegardé l'outil de production, mais qui n'avaient plus de matières premières, d'autres qui avaient des matières premières et plus d'outils. Alors nous avons privilégié effectivement celles qui avaient préservé l'outil de production pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait maintenir les emplois qui existaient encore. Il fallait un produit sur le marché parce qu'il y avait quand même de la population. Et il fallait aussi continuer à payer les taxes. Et puis ensuite, il fallait aussi soutenir l'outil qui restait. Donc voilà, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons accordé en quelque sorte ce qu'on appelait le fonds de roulement pour que l'entreprise continue à produire. Et je peux dire que nous avons aidé de grandes entreprises, malheureusement, on ne peut pas les citer, mais il y avait des grandes entreprises brassicoles qui avaient été pillées, nous avons pu les relancer. C'est aussi un genre de incitation pour que les entreprises déjà installées restent au pays, parce que quand elles ont des problèmes, elles peuvent recourir au FBI.
Le grand témoin.
Alors, madame Odette, toutes les années 70, vous êtes conseillère économique au Parlement. En ce moment-là, c'était le conseil législatif. Quelle était votre tâche, précisément?
Étant économiste, j'étais attachée à la grande commission économico-financière. C'est-à-dire que j'étais dans le bureau d'études à la commission économique comme expert, mais nous accompagnons la grande commission économico-financière du Parlement. Donc, nous étions les parlementaires, parfois, à élaborer des lois à caractère économique, et quand le gouvernement envoyait un projet à caractère économique, le projet tombait dans au bureau d'études, et c'est la commission, les membres de cette commission qui examinaient ces projets-là.
On a entendu tout à l'heure votre complice à la maison nous dire que vous faisiez du miel. Est-ce que vous aviez aussi un parcours un peu dans le privé ou l'humanitaire?
Oui, on a un parcours qui a commencé d'abord par encadrer les paysans, quelques paysans du Bas-Congo qui produisaient le miel mais qui n'arrivaient pas à écouler. Vous savez, il y a quelques années, ce produit n'était pas connu de notre...
Le miel.
Non. Nos populations ne consommaient pas le miel. C'est maintenant, petit à petit, nous étions parmi les premières à pénétrer le marché pour ce produit, à aider les paysans à écouler ce produit.
Et ça, vous le faites jusqu'aujourd'hui?
Jusqu'aujourd'hui, nous le faisons. Nous travaillons avec les paysans. Et mine de rien, c'est les paysans qui sont dans cette production-là, ce sont des gens qui n'ont pas tellement de problèmes d'emploi, parce que en fait c'est un produit où vous n'avez pas des ouvriers humains qui sont malades, qui ont des enfants, qui vont
venir des abeilles qui produisent pour vous, mais vous devez quand même surmonter aussi une difficulté, vous faire piquer de temps en temps.
Non, les gens sont équipés, hein, les gens sont équipés pour aller extraire, disons, le miel. Non, il ne faut pas s'exposer. Ce sont des gens formés, ce sont des encadreurs vraiment bien formés qui font ce travail-là.
Le grand témoin.
Grand témoin qui reçoit pour vous Odette Guéma Dioya et les présidentes des femmes des petites et moyennes entreprises. Avant de parler de ce que les femmes peuvent apporter dans l'économie nationale à travers les PME, nous allons sonder le goût musical de Odette Guéma en retrouvant quelqu'un pour elle. Monsieur Joseph Mabouti, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous reconnaissez Mabouti, Joseph?
Oui, je reconnais la voix, je reconnais. C'est un jeune qui a son école d'informatique, une école qui fonctionne très bien, et je crois que il est parmi les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment assises sur cette place de Kinshasa.
Alors, Mabouti Joseph, vous-même, vous connaissez madame?
Oui, ça fait plusieurs années que je la connais. J'en profite pour la saluer.
Bonjour
madame Guéma. Je puis vous assurer que j'ai appris beaucoup de choses à côté de madame Guéma.
Par exemple.
Et j'ai continué à apprendre juste aujourd'hui parce que, comme elle vous a dit, elle est dans l'entrepreneuriat aussi. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons tiré beaucoup de leçons auprès d'elle.
Alors, Mabouti, Joseph, préparez-vous. Je vous pose une question pas très gaie.
Oui.
Dites-nous ce que vous n'appréciez pas chez madame Odette Guéma.
Qu'est-ce que je n'apprécie pas? Non, bon, tout est bon après.
Dites-nous rapidement.
Je ne sais pas, je suis avec elle. Bon, de temps en temps, elle pique certaines colères, mais c'est bon, c'est juste pour collaborer, travailler avec elle. Donc, tout va bien.
D'accord, on va aussi en tenir compte, on va tâcher de ne pas trop l'énerver. Alors, proposez-nous un morceau pour ne pas l'énerver, un morceau de musique que vous voudrez bien lui faire entendre.
Bon, je sais qu'elle aime, le rythme Los Niquelos. Est-ce que vous pouvez avoir une chanson de Los Niquelos, Éminence par exemple?
Éminence de Los Niquelos, c'est ça que vous demandez?
Oui, par exemple.
Vous aimez Los Niquelos?
Oui, j'aime bien la chanson Éminence.
Pourquoi?
Ça me rappelle des années, disons, passées en Europe, quand ces orchestres ont commencé. Nous étions en Europe tous étudiants.
Oui, est-ce que c'est ça?
Oui, c'est la chanson, effectivement, Éminence.
Alors, dites-nous la petite histoire très rapidement.
Oui, ce sont des étudiants qui ont commencé, qui ont monté leurs orchestres. Et je trouve que, curieusement, ces chansons-là sont restées d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde aime bien.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Alors je vous vois madame en train de faire bouger les doigts, c'est comme ça que ça s'est dansé?
Non, ça c'est dans, c'est une rumba, ça c'est dans, c'est comme une rumba.
Et sûrement vous saviez bien danser ça.
Oui.
À l'époque avec les Singavoisa, je pense, à la tête.
Non, tout ce qu'on pouvait avoir, on était jeunes aussi, hein, on était très jeunes, alors c'est vraiment un bon souvenir.
D'accord, merci beaucoup à DJ Daddy, à Eric et Sigakala pour avoir retrouvé pour nous le morceau. Grand témoin sur Radio Okapi, notre invité aujourd'hui, Odette Guéma. Je vous le rappelle, elle préside le regroupement des femmes des petites et moyennes entreprises, les PME, selon la loi congolaise, sont des entreprises qui emploient moins de 200 personnes. Alors à côté des PME, beaucoup de Congolais vivent des petits commerces. Et nous allons à Kananga, où cette semaine, il y a eu la chasse aux vendeurs à la sauvette dans les artères de la ville. Certains étalages érigés le long des artères ont été enlevés, mais la mesure ne rencontre pas l'assentiment de tous. Reportage de André Kambala.
Détenteurs de cabines publiques, vendeuses de légumes et autres revendeurs de divers produits sur les trottoirs des grandes artères de Kananga, tous sont chassés par la police. La même mesure s'applique sur les personnes qui étalent des marchandises sous les vérandas de magasins. Tous ces opérateurs économiques rencontrent des policiers postés sitôt sur ces différentes places. Déjà au premier jour de son application, cette mesure prise par l'autorité urbaine n'a pas fait l'unanimité. Plus grave, elle trouve une résistance même parmi ceux qui sont censés la faire appliquer. Rencontré au centre-ville, un policier dont la femme revend le carburant pense que ce n'est pas la priorité de la ville étant donné que ce vendeur paye régulièrement leurs taxes. Il constate que les femmes s'exposent chaque jour au soleil pour pallier l'irrégularité des salaires de leur mari, ajoutant que pour l'État, le mieux serait d'améliorer et régulariser le salaire avant de penser à chasser les pauvres personnes. Contacté à propos, Marguerite Lucampeta, maire de la ville à intérim, dit avoir pris cette mesure pour faire retrouver à la ville de Kananga sa propriété ancienne. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
André Kambala, merci. Alors, madame Odette, on sait que ces vendeurs à la sauvette ne constituent pas encore de petites et moyennes entreprises. Mais votre réaction?
Bon, à partir du moment où c'est vrai, ce que la femme a dit est vrai, mais d'un autre côté aussi, il y a quand même parfois ces vendeurs le font d'une manière très anarchique et cela peut causer des problèmes pour les passants et ensuite parfois ils ne respectent pas la propriété de la ville. Donc c'est vraiment, je dirais, une situation qui est à boire et à manger, mais quelque part, il faut quand même que l'État puisse mettre tout le monde à l'aise quand ça dérange les
Alors,
autres.
Vous parlez de l'État, mais quelle est votre part de responsabilité là-dedans? Comment convertir, par exemple, ces vendeurs à la sauvette, qui sont d'ailleurs pour la plupart des femmes, comment les convertir aussi pour qu'elles arrivent à se regrouper et donner, par exemple, des petites et moyennes entreprises? Vous avez parlé du miel, par exemple.
Oui, c'est un peu là la mission et même les objectifs poursuivis par notre association, constituer un noyau fort de femmes avec une mission bien précise, faire connaître le contenu exact de cet entrepreneuriat, disons, même si il est féminin, que ces femmes, justement, nous prodiguons des conseils. Il y a des échanges d'informations, il y a des échanges de meilleures pratiques pour réussir. Donc, tout ça, ensuite, il faut mettre des produits conformes à certaines normes, conformes à l'hygiène. Tout ça, c'est ce que nous essayons de faire. C'est un travail de longue haleine, mais et puis ensuite, ces femmes doivent nécessairement fréquenter des associations, des réseaux. C'est là où elles ont
l'information. Des réseaux, c'est-à-dire quoi?
Des associations de regroupement, parce que au sein de ces associations, au sein de ces regroupements, on échange l'information, les meilleures pratiques, on les forme, hein, pour que justement qu'elles essaient petit à petit de quitter ces activités-là trop informelles vers des activités plus organisées. Donc c'est un peu ça le travail. Et ensuite, introduire l'importance de l'unité de s'associer, parce que c'est ça notre problème.
Mais depuis que vous avez déjà commencé avec votre association des femmes, disons des petites et moyennes entreprises, est-ce que vous êtes déjà arrivé à évaluer ce que vous donnez à l'État? Vous donnez combien à l'État, par exemple?
Si, c'est, pour le moment, on peut dire que, par exemple, pour vraiment évoluer dans l'entrepreneuriat tel que nous le voulons, on n'est pas masse, on est un noyau avec des femmes qui ont leurs petites activités et chaque année, elles ont des ambitions, c'est qu'elles évoluent, elles améliorent leur production. Il est vrai qu'il n'y a pas encore d'études vraiment exactes pour évaluer l'apport de la femme, l'impact et même l'apport de la femme à l'économie. Voilà le travail qui, en principe, devrait être fait dans un programme donné, évaluer, faire un état des lieux des femmes. Qui sont ces femmes qui sont sur le terrain? Dans quel secteur elles sont? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Et ainsi, alors, en ce moment-là, on pourrait évaluer l'apport exact. Pour le moment, on voit effectivement que la femme apporte quelque chose, mais on ne peut pas chiffrer cela. Et c'est un peu ça notre travail.
Le grand témoin.
Alors, nous avons d'abord retrouvé un auditeur de Kikwit, il a une question.
Madame Elise Kikwito, j'habite la ville de Kikwit. Bon, je voulais connaître du moins les objectifs spécifiques de cette association femmes et des petites et moyennes entreprises.
Mais vous aviez déjà un peu répondu à cette question, si elle nous a bien écouté. Dans quel domaine évoluent ces femmes?
Dans tous les domaines, hein. Il y a des femmes qui sont dans la petite transformation, il y a des femmes qui sont dans l'agriculture, il y a des femmes qui sont dans le commerce, il y a des femmes qui sont aussi dans les services. Donc nous couvrons tous les secteurs. Bon, les objectifs justement, nous poursuivons d'identifier d'abord les femmes qui sont sur le terrain, les former, et ensuite qu'elles aient, disons, un comportement de développer en elles la culture de l'entreprise, l'esprit d'entreprise.
Alors cette année, vous allez en former combien?
Cette année, nous allons en former une trentaine, parce que la formation, il faut d'abord que nous l'acceptions. Parce que dans la plupart des cas, les Congolais, en principe, ne considèrent pas la formation comme une ressource. Et ce qui fait que quand vous les appelez, surtout qu'on nous a appris que quand vous formez, vous faites des séminaires, il faut des tickets, il faut ceci, cela, donc c'est vraiment... alors que là, chez nous, il faut quand même se prendre en charge. Nous gérons nous-mêmes notre association avec nos moyens et les femmes se prennent en charge dans ce qu'elles sont en train de faire. Donc, c'est vraiment une nouvelle culture. Et ensuite, évoluer vers une nouvelle génération des femmes, les femmes entrepreneurs, c'est-à-dire des femmes qui commencent des activités déjà avec le comportement d'un vrai entrepreneur, au lieu de corriger, c'est ce que nous faisons pour le moment.
Mais est-ce que, dans ce que vous faites déjà, l'impact peut se faire ressentir au niveau national, c'est-à-dire que les femmes que vous encadrez puissent donner des taxes et des impôts à l'État?
C'est ça, c'est ce que nous essayons de leur faire comprendre l'importance. Mais le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, il faudrait, maintenant que nous avons des institutions élues et ainsi de suite, que nous avons un gouvernement légal installé, c'est tout ça qu'il faudra voir. Parce qu'en fait, le problème de la petite et moyenne entreprise, qu'elle soit gérée par la femme ou par l'homme, elle connaît les mêmes problèmes. Mais vous savez que dans la vie, lorsque l'homme connaît un problème dans un domaine donné, la femme en connaît plus. Et c'est ça qu'on devra arriver à négocier avec l'État. Si nous disons aux femmes de quitter l'informel pour le formel, parce que payer les taxes, justement, elles doivent déjà être dans le formel. il faudrait qu'il y ait des incitations. Il faudrait pas que, comme souvent nous le faisons, on les fait sortir quelque temps après, elles vous disent non, on est matraqué, il y a des tracasseries, il y a des ceci, qu'elles se replient. Donc c'est tout ça aussi que l'État devra voir. Parce que, il peut gagner sur l'échelle au lieu de serrer à 100% les gens, surtout que vous me dites sortez, mais je dois trouver mon compte. Si je ne trouve pas mon compte, elle se replie et rentre de nouveau dans l'informel.
Toujours à Tukwit, nous allons prendre encore un auditeur avec sa question.
Laurent Benia de Tukwit dans la province de Bandundu. Dans le contexte actuel de l'économie de notre pays, où c'est la femme qui est pratiquement au centre de la vie quotidienne, celle qui soutient le ménage, celle qui nourrit tout le monde presque, même la scolarité des enfants, quel compte faire, madame, votre association, à l'intention de petites et moyennes entreprises sur surtout à l'égard de la femme?
Oui, il y a déjà la femme qui travaille pour elle-même et peut-être pour ses enfants ou pour la famille, mais aussi on peut se demander ce qu'elle fait pour les autres, est-ce que ces femmes d'entreprise créent de l'emploi?
Oui, tout justement, je vous ai dit, notre travail c'est donner un contenu, un comportement à la femme qui est dans l'entrepreneuriat, dans ce sens que elle doit nécessairement se mettre dans des activités de longue durée. Petit à petit, elle doit évoluer. Même si elle a commencé dans des activités ponctuelles, conjoncturelles, nous essayons qu'elle aille dans des activités de longue durée. Et dans ces activités-là, elle devra les pérenniser d'un côté, et de l'autre côté, on sait qu'elle va créer au moins 3 ou 4 emplois, plus ou moins durables. Ce sont des emplois qui vont durer plus ou moins 5 ans peut-être, mais ce ne sera pas des emplois journaliers, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est tout un travail. Bon, ce que nous comptons faire, c'est justement faire connaître les attentes de la femme. On reconnaît aujourd'hui, par exemple, tout ça c'est bien, on reconnaît, mais verbalement. On ne fait rien pour cette femme qui se dépense tous les jours.
Qui doit faire pour elle?
Mais justement, il y a une partie, elle-même, il y a une partie où l'État, il faut qu'il y ait des programmes, il faut qu'il y ait des programmes et puis certains appuis. Il y a des appuis, on peut lui accorder certaines facilités. Le problème de la femme, c'est quoi? Souvent, il y a un problème de formation, il y a un problème d'accès au crédit,
au financement,
et c'est là où se trouve aussi son problème, parce que normalement, les autres pays africains, ayant constaté l'apport de la femme à l'économie africaine, par exemple, ou congolaise, on essaie de l'aider, de faire un programme pour que cette femme, parce que le raisonnement, c'est lequel? On se dit, si avec rien, presque rien, cette femme a fait des miracles, cette femme a soutenu les familles, cette femme a préservé la paix sociale. Parce que si cette femme ne travaillait pas, je me demande ce qu'on en serait devenu.
Alors, vous demandez que l'État fasse quelque chose pour vous, mais est-ce que vous-même, vous êtes combatif, vous élaborez des projets, vous les déposez au fonds de promotion de l'industrie, et vous allez voir le ministre de l'économie?
C'est tout un processus. Il fallait d'abord créer un noyau, parce qu'il faut être comme des missionnaires. Nous devons absolument vulgariser le vrai contenu, par exemple, de l'entrepreneuriat. Hein? Et ensuite, créer carrément un noyau, disons, un noyau fort, c'est ce noyau qui va faire le lobbying, c'est ce noyau qui ira vers le gouvernement, vers le ministre.
Alors ce noyau, il vient quoi?
Si. Non, on l'a, mais nous avions des problèmes. Maintenant, nous avons un État avec un programme, et au sein de ce programme, nous allons voir ce qu'il faut faire. Il y a des gens identifiés. Nous savons que, par exemple, un gouvernement qui dure 5 ans, il y a moyen de travailler. Et je vous dirai, puisque vous l'avez dit, que j'ai travaillé comme directeur de cabinet au ministère de l'Industrie. La Banque africaine de développement, la BAD, a préconisé qu'il y ait une division, un service au moins au sein de l'administration de l'industrie sur l'entrepreneuriat féminin. Que fait ce service? Le service existe. Mais maintenant, nous savons que le ministre va faire un temps, il aura le temps de jeter un coup d'œil, peut-être que ça allait tellement vite les changements, les préoccupations étaient tout autres, tandis que maintenant il aura le temps, il faudra absolument qu'il y ait un programme, que ce service puisse fonctionner comme il faut, et présenter un programme pour la femme entrepreneur. Donc c'est ça que nous préparons pour essayer d'approcher les ministères, parce que maintenant nous savons qu'il y aura un peu d'écoute, mais il y a quelques temps, ce serait difficile.
Donc vous vous préparez pour ça, dans
Oui, nous avons déjà on a fait plus ou moins un cahier des charges que nous allons compléter pour présenter les problèmes et les attentes de la femme dans le domaine.
Le grand témoin.
Et nous reste une minute pour clore cet entretien avec Madame Odette Guimard. Est-ce que Madame accepterait notre invitation dans une année pour qu'on vienne vérifier ce que vous nous avez dit?
Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'on vous allez être surpris vous-même parce que on a beaucoup d'idées, on a de la force et puis on a le groupe, il y a la volonté de cette femme. Je crois qu'aujourd'hui, la femme congolaise en général n'est plus la même après tout ce qui s'est passé. Donc, elle a fait ses preuves et je crois que maintenant, il faut la maintenir dans cet élan-là.
Grand témoin qui recevait Odette Guimard Diloya, présidente de l'Association des femmes des petites et moyennes entreprises en RDC. Nous lui disons merci de prévenir.
Pour terminer, j'ai dit, il faudrait que la femme maintienne l'élan qu'elle a pris dans tout ce qui s'est passé et je crois qu'elle pourra faire des merveilles.
Samedi prochain, Grand Témoin vous fait découvrir Didi Manara, gouverneur du Maniema, Alain Hirung, Guy Roger, Nyampala et héritier Sidiakala. Vous fixe donc rendez-vous le week-end prochain et vous souhaite bon dimanche.